Le texte nous dit que Moïse monte dans la montagne 40 jours, 40 nuits, hein, toujours ce fameux chapitre, ce fameux chiffre 40, hein, qui est un chiffre parfait dans l'écriture, c'est le temps d'une génération. C'est pas 39, c'est pas 41. Et Jésus n'échappera pas à cela dans le récit des tentations. Hein, lui-même, 40 jours, 40 nuits. Quand il eut fini de parler avec Moïse, le Seigneur, sur le mont Sinaï, le Seigneur lui remit les deux tables, donc le passage à l'écriture, les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit « Alors, fais-nous un Dieu qui nous aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Voilà, l'absence. L'absence du conducteur du peuple, absence aussi du législateur, bref, cette durée qui est une totalité devient intenable. Et au cœur de cette absence, bah, poser quelqu'un, remplir ce vide. Et là aussi, on peut réfléchir à, pour nous-mêmes, ce qu'on peut appeler, que certains auteurs appellent l'absence de Dieu, l'absence de l'autre, hein, cette espèce de béance en nous, et puis on peut remplir cela avec beaucoup de choses. C'est ce qui se passe bien aujourd'hui. Avec le fric, avec l'alcool, avec la drogue, avec, etc., qui révèle toujours hein, une béance, une faille en l'être humain. Donc ici, c'est au niveau communautaire. Donc ici, déjà, dans cette décision, ils se mettent hors alliance. L'alliance vient juste d'être fondée et est déjà rompue. Dans la mesure où ce vide, cette absence devient intolérable. Ce Moïse, nous ne savons pas où il est. Et dans la tradition juive, hein, ça perdurera dans la mesure où il n'y a pas de tombeau, Moïse. Il n'y a pas de mausolée, Moïse. Donc, des générations en génération, ben, qu'est-ce qui va rester de Moïse, à votre avis? Qu'est-ce qui va rester?
La parole.
La transmission orale.
La parole.
Ah, certainement pas. Il va rester le livre. Il va rester le livre de la parole. Donc les juifs qui vont être envoyés en exil, etc., dans les, hein, la Gola, ce qu'on appelle, ils partiront avec le livre. Et ils pourront réentendre ce que Moïse a entendu, parce que c'est consigné dans le livre. Et ils pourront voir aussi de Babylone ou d'ailleurs ce que Moïse a vu sur le mont Nebo. Et oui, ma grand-mère, moi, elle me faisait la catéchèse étant petit, hein. Donc, on parlait de Moïse, bien sûr, du mont Nebo. Elle me dit, tu vois la terre promise? Non, je vois rien. Ferme les yeux. Tu vois Naphtali? Tu vois Zébulon? Je dis, non, je vois pas grand-chose. Ferme plus profondément.
Et comment encore les yeux?
Le Negev, etc. Comment? C'est ce que tout juif, qu'il soit au bout du monde ou ailleurs, peut voir par la médiation du livre. Vous voyez bien? Et ça, c'est extrêmement essentiel. Alors, pour l'instant, ben, la solution, c'est de remplir ce vide. Alors, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Hein? Ôtez donc à Aaron, et là, c'est là, les prêtres ont pris un sacré coup, hein, Aaron, le frère de Moïse, hein, leur répondit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos filles, etc., apportez-les-moi. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron, il reçut l'or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors il dit, ils dirent, voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà. Ça, c'est le texte matrice, au moins pour une école théologique, hein, biblique, qui s'appelle le Deutéronomiste, peu importe, oubliez ça, où le péché par excellence, c'est l'idolâtrie. Et ça, c'est le texte matrice, qui sera repris, relu, réécrit, hein, dans toute la tradition, hein, jusqu'au prophète. C'est-à-dire, l'idolâtrie, c'est ce qui me détourne de Dieu. Et là encore, que je vous l'ai dit dans le bus, on est dans un monde, chez nous, où l'idolâtrie bat son plein. Là, vraiment. Et même chez les chrétiens, hein, les petits gris-gris, hein, qu'on met à droite, à gauche, etc. Hein.
Bon,
ben regardez bien. Voilà. Donc, devant cela, le Seigneur avertit Moïse, descends, car ton peuple, il dit plus mon peuple, ton peuple, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui, ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà la réaction. Hein, comment réaction de Dieu qui veut détruire ce peuple. Un peu comme ce que je vous ai dit sur, au moment du déluge. Hein, le mal est partout. Le regret du Seigneur d'avoir créé l'humain, l'humanité, qui se pervertit au fur et à mesure. Sauf un, Noé. Voilà, et Noé sauve le monde. Alors ici, même réaction de la part du Seigneur. Même réaction, je vais te détruire, maintenant laisse-moi, dit-il à Moïse, ma colère va s'enflammer contre eux, je les exterminerai, mais de toi je ferai un grand peuple. On retrouve la problématique qu'on a dans Noé. C'est-à-dire que l'humanité va renaître à partir d'un seul, et sa femme. Bien ici, même décision de la part de Dieu. Mais là, au contraire de Noé, Moïse intercède. Voilà, il est vraiment celui qui intercède pour... Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflamme-t-elle contre ce peuple, contre ton peuple, le possessif est du côté de Dieu, c'est toi, hein, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. C'est très fort parce que Moïse se retire, hein, tout en parlant. Hein, il ne s'attribue pas à cette sortie. Le maître d'œuvre de cette sortie, c'est le Seigneur lui-même. On peut dire que là, hein, l'intercession est très très forte. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre. Reviens de ta colère. Renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi. Hein, c'est Moïse qui redonne mémoire, hein, qui remet, hein, le Seigneur dans la mémoire. Souviens-toi de tes serviteurs. Qui ? Abraham, Isaac, Jacob. Toujours. Que tu as juré par toi-même. Et que tu as dit, je multiplierai votre postérité. Donc ça reprend, hein, les paroles qu'on a dans le livre de la Genèse. Donc Moïse descend avec les tables, hein, les deux tables, hein, l'une, je l'ai dit un peu hier dans le bus, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, qui concerne donc mon rapport à Dieu, hein, au centre, hein, le positif, hein, c'est-à-dire de se souvenir que tu as été esclave, etc., donc la loi du sabbat. La loi aussi pour les parents, honore ton père, ta mère. C'est pas de les encenser, mais parce que ce sont nos racines. Ce sont eux qui nous ont donné la vie, etc., etc. Donc tu vivras de longs jours. Et ensuite, on a la deuxième table qui concerne le prochain. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, pas d'adultère, etc., etc. Donc ces deux tables-là, écrites, dit bien le texte, du doigt même de Dieu. Alors Moïse y descend. Il descend, accompagné de Josué, etc., peu importe. Et qu'est-ce que va faire Moïse? Et c'est capital. C'est ce qui fait qu'on n'aura pas le Coran. C'est capital, qu'est-ce qu'il fait? Ça m'a valu une psychanalyse qui m'a duré quelques années. Qu'est-ce qu'il fait?
Il casse
les tables de la loi. Qu'est-ce que ça signifie? Pas qu'on n'aura jamais l'original. On n'aura jamais l'original, on aura la deuxième écriture. À savoir que Moïse va repartir à la montagne et va réécrire la première loi. Mais nous n'avons que la deuxième loi. Et c'est ce qui fait que désormais, l'écriture ne sera toujours que réécriture. Toujours seconde. Alors, je vais vous renvoyer à des choses plus simples. Qu'est-ce que vous faites quand vous priez un texte? Dites-moi voir, quand vous prenez une page d'évangile, quand vous prenez tel ou tel autre texte de l'écriture, peu importe. On vous donne des points, se mettre en présence, rapporter l'histoire, premier point, deuxième point, troisième point, terminer par le colloque, l'action de grâce. Là, je parle comme un jésuite, là, je parle de la tradition universelle. Bon. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être neutre devant le texte. Mais vous l'avez réécrit. Réécrit avec votre propre histoire. C'est pas de faire une copie. Il a été réécrit. Donc, sans le savoir, vous faites ce qu'on appelle de la deutéronomie. C'est pas une maladie, hein, y a pas de... c'est contagieux. Quoi. C'est ce qu'on appelle en termes techniques une deutérose. Deutéronome, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire deuxième loi. Donc non pas une autre. Non, c'est réécriture de la loi. D'où deuxième loi. Donc vous voyez bien, ça peut changer votre regard. Quand ça permet l'actualisation. Ce qui est impossible avec le Coran. Un Coran est intouchable. Ah, dans la tradition au moins sunnite. C'est les chiites, c'est un peu plus compliqué. Mais dans la tradition sunnite, qui sont la majorité, la grosse majorité, on ne touche pas au texte, c'est écrit. Avec l'écriture, on ne peut pas dire ça. Et je me rappelle un jour, j'avais été invité au Mont Carmel avec un rabbin et un imam, pour parler un peu de la geste d'Abraham, etc. Et l'imam, il voit avec ma Bible, le rabbin avec sa Bible, c'était un grand colloque international, et j'avais été envoyé là-bas. Bon, je ne sais pas trop, mais enfin, j'y étais quand même. Et puis, le imam, il s'est réjoui, etc., et en disant aux gens, moitié anglais, moitié hébreu, tout ce que vous voulez, voyez, nous sommes... Il montre le rabbin, il montre le curé, enfin pas le curé, le prêtre religieux, et lui il dit, vous voyez, nous sommes la religion du livre. Lolo, alors non, non, non. Il est tout de suite arrêté, le rabbin, il a bu du petit lait. Lolo, adonne. Et puis Jean, nous, le rabbin et moi, nous ne sommes pas une religion du livre. Bon, l'autre a fait la Bible, comment ça? Il se rendait bien compte que non, nous, lui, moi, c'est une religion de la parole, portée par le livre. Mais ce n'est pas une religion du livre. Alors là, scier le mec. Jure, j'ai eu l'audace de faire ça, il y avait plein de gens. Quelqu'un qui traduisait derrière moi pour bien que les gens comprennent. Pour dire, voyez, alors on ne peut pas faire n'importe quoi avec le livre. Mais voyez bien, ça peut devenir quelque chose qu'on ne touche plus. Hein? Ça, c'est le rapport au sacré. Hein? Les petits veaux d'or. Hein? On ne touche pas à ça. Hein? Avec le Francis, on pourra raconter des tas d'histoires. Hein? Le linge doit bien être là, et puis on doit bien mettre les... etc. Enfermé dans le sacré, sans plus lien, sans aucun lien avec l'histoire, avec l'actualité, avec ce que nous vivons. Vous comprenez ? Alors ici, le problème est réglé. À partir de ce moment-là que Moïse réécrit la Torah, et la tradition dira l'auteur de la Torah, c'est Moïse, qui la reçoit sur le Sinaï. Hein, c'est une grande fête dans le judaïsme, hein, Natan Torah, hein, grande fête. Où tout le monde danse dans, hein, vers, naturellement vers le kotel, vers le mur, mais aussi dans les rues, dans toutes les yeshivas, les yeshivot, etc. Hein, et tout le monde sort avec les rouleaux, hein, les rabbis, hein, et puis ces écoles qui tournent, qui dansent, etc. Ça, c'est. Voilà. Et ça, ça se passe quand, ça? Quelle fête? Là, je ne t'ai pas demandé à toi. C'est pour la fête de. La fête de Shavuot, de garde en terme grec. Donc la fête de Pentecôte pour nous, hein, c'est ce jour-là, le judaïsme célèbre le don de la loi donné à Moïse. Et les chrétiens célèbrent quoi, eux ?
Le
don de l'esprit. Mais là, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais c'est une fête extraordinaire dans la mesure que même quand Moïse reçoit, hein, la Torah, hein, la Torah orale et la Torah écrite, c'est compliqué dans le judaïsme, hein, et ben, les nations sont aussi présentes. Les nations ne sont pas éliminées. Hein, comme on le croit toujours que c'est un îlot, les juifs, hein, voilà, ils ont du mal, on ne peut pas les assimiler, etc. etc. Non, dans les grands moments, hein, même à la Pâque, voilà, on laisse toujours une porte ouverte dans certaines familles pieuses. S'il passe quelqu'un, un étranger, on ne peut pas le laisser dehors. Donc on laisse la porte ouverte, enfin, etc. Il y a plein de choses comme ça pour dire. Donc toujours ce rapport aussi. Donc un moment extrêmement important pour les biblistes, hein, pour un peu comprendre que ce que nous avons entre les mains, hein, c'est une réécriture continuelle, hein, en fonction de l'histoire, en fonction des événements. Donc c'est l'actualisation permanente de la parole. C'est ce que vous faites quand vous priez. Moi ce matin en célébrant, c'est aujourd'hui que j'ai célébré. Avec vous, pour vous, en tenant compte de ce que nous vivons. Alors je fais ce que je peux, mais ça, ça m'habite. Donc je déborde le rituel. Alors je ne vais pas faire n'importe quoi non plus, mais je le simplifie pour que chacun puisse s'y retrouver. Hein? Le danger dans notre Église, hein, et Francis pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Moi je ne suis pas prêtre de diocésain, de paroisse ou autre. Hein, je ne suis qu'un religieux, un petit religieux. Hein. Ben, la tentation du ritualisme aujourd'hui. Voilà. Et surtout chez les plus jeunes, on en parle souvent avec Francis. Alors bon, hein, l'Église en a vu d'autres, vous n'en faites pas. Hein. Mais ben, y a cette tentation-là, c'est-à-dire c'est ce qui rassure. C'est le veau d'or. On remplit le vide, on remplit le manque, tout ce que vous voulez. Très bien. Voilà la petite chose que je voulais vous dire.